Alain ?
Oui.
C'est à vous.
Merci.
Merci.
Alors, je vais essayer d'être clair. Bonsoir, d'abord, je vais essayer d'être clair. Je ne sais pas si ça sera le cas. Voilà. En fait, mon burn-out, c'est une très longue histoire, finalement. L'arrêt maladie a commencé fin juillet 2013. Je vais brûler une étape. J'ai repris, ça a duré 18 mois, l'arrêt maladie. Voilà. Mais en fait, la surcharge de travail, elle est apparue en 2003. 2003, dû au changement de structure de l'entreprise, déjà, de toute façon, qui est un grand groupe industriel basé en Auvergne, c'est pas une grande entreprise de la région clermontoise. Voilà. Ne soyez pas. Voilà.
Ça pourrait,
mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas celle-ci. Donc, grosse surcharge de travail, et puis 2003, en fait, déjà, on me demandait d'occuper plusieurs postes à la fois, finalement, de remplacer plusieurs personnes, d'occuper les postes de travail de 2 ou 3 personnes. Alors, déjà à l'époque, j'avais demandé de l'aide à mes responsables hiérarchiques qui avaient été refusés. Bon, tu peux bien faire le travail de plusieurs personnes, ça ne pose aucun souci, puis de toute façon, tu es efficace, tu fais très bien ton travail, je ne vois pas qui on pourrait mettre à ta place, puis si on embauche quelqu'un, ça va coûter cher. Bon, et puis au fil des années, il y a des collègues qui sont partis, beaucoup en retraite d'ailleurs, certains sont morts de maladies ou de vieillesse, pas liés au burn-out, loin de là. Et puis bon, les surcharges de travail sont accrues, l'entreprise s'est mariée avec un grand groupe, et là, on a perdu des moyens humains, les surcharges de travail ont continué à s'accentuer. Et puis bon, c'est vrai que j'ai toujours bien fait mon travail, je l'appréciais beaucoup parce que je développais tout un tas de choses, je mettais en place des procédés de fabrication, il y avait plein de problèmes techniques à résoudre, parfois des problèmes liés de relations humaines, bon, c'était pas trop ma spécialité, mais bon, j'y participais aussi, essayer de résoudre ces problèmes-là. Il y avait une notion de service aux collègues, rendre service aux collègues, je faisais de la vulgarisation technique, j'adorais faire ça. J'étais prévenant, très prévenant, pour éviter les accidents de travail des collègues, pour éviter que des pièces soient rebutées, éviter les erreurs, ainsi de suite. Et puis surcharge de travail. Et puis mise en place de méthodes de management complètement irrespectueuses, malhonnêtes, irrespectueuses, avec une multiplication des responsables hiérarchiques. À un moment donné, c'est une génération spontanée de... C'est comme pour les souris de responsables hiérarchiques, mais de plus en plus incompétents, qui en plus n'étaient pas faits pour le management. Mais une catastrophe. Mise en place des méthodes de management non plus hiérarchiques, mais matricielles, comme on dit, à la fois hiérarchiques et transversales. Ça, c'est génial. Ces méthodes-là, c'est génial. Pour faire péter les plongeons, c'est génial. On n'a pas mieux fait.
Bon.
Et puis, méthode de management, on s'arrive jusqu'aux insultes, aux récidives d'insultes, puis jusqu'aux menaces physiques. Bon, entre deux, au fil des années, je récupérais de moins en moins facilement. J'étais de plus en plus fatigué. Et puis, là, quand on est arrivé aux insultes, j'ai refusé d'aller travailler. Donc, je suis allé voir un médecin du travail, puisque c'était comme une grande société. Donc, il y avait un médecin du travail qui était un employé de l'entreprise, finalement, qui m'a écouté. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, je viens travailler encore une semaine, parce que je me suis engagé vis-à-vis de mes collègues. Je viens pour une semaine de plus. C'était une erreur, d'ailleurs, une belle bêtise, mais je fais une semaine de plus parce que je me suis engagé vis-à-vis de mes collègues, j'ai un gros projet en main, je vais l'amener jusqu'à une certaine étape, ensuite les collègues se débrouilleront. Moi, je vais jusqu'à cette étape-là. Et je me souviens très bien d'ailleurs, c'était une ville moyenne au fin fond de l'Auvergne, j'ai fait un déplacement à Lyon, en voiture. Venir à Lyon, les 2h30 de route, ça m'a pris 5 heures, parce que j'ai passé 2h30 à dormir. Le retour le lendemain, j'ai pas mis 2h30 pour rentrer sans embouteillage. J'ai mis 7h. Parce que les 2h30 de route, mais avec 2h30 de route, le restant, à dormir. Puis j'ai eu du mal à ramener la voiture. J'ai fini la semaine. Et puis après, j'ai dit, je refuse de retourner travailler. Je refuse. Donc le médecin du travail, lui, qu'est-ce que qu'il fasse? Déjà, il protégeait plus les intérêts de l'entreprise que les intérêts des employés. Pour commencer, gros problème de la médecine du travail d'ailleurs, je pense, quelque part, mais enfin bon.
Il y aura quelqu'un pour défendre la médecine du travail.
Oui, gros problème quand même.
Il y a des psychologues, il y a tout.
Et puis, mon médecin généraliste m'a mis en arrêt maladie pendant un mois, mais je savais très bien que quelque part, au début de l'arrêt maladie, je ne remettrai jamais les pieds dans l'entreprise. Ça, je le savais. Et puis, bon. Mais à la fin, les derniers jours au travail, c'était... mon agressivité augmentait, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, naturellement, mais mon agressivité a augmenté progressivement. J'étais devenu vraiment très, très agressif. Et puis, alors, la perte de mémoire. Mais ne plus me souvenir de ce que je faisais, de ce que j'avais fait, de ce que j'avais dit à mes collègues, 5 minutes, 10 minutes avant. À ne plus me souvenir de ce que j'avais écrit dans un mail. Tout de suite après l'avoir envoyé. Oui, à ce point-là. Et puis, bon, le début de l'arrêt maladie, déjà, il était indispensable. Absolument. C'est pas bien, déjà, vous ne mémorisez plus rien. Je vois pas comment on peut y travailler. Voilà, les problèmes de mémoire, ils se sont poursuivis pendant plusieurs mois. Donc, à partir de fin juillet jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre. Mais l'incapacité à lire quoi que ce soit, à retenir quoi que ce soit. Donc, je passais mes journées à dormir, à me préparer mes repas parce que je suis célibataire, donc si je ne le faisais pas, il y avait quand même un gros problème. Et puis je me forçais à aller faire du VTT. Et le reste du temps, je le passais sur le clic-clac avec mon ours en peluche. Voilà. Je faisais que ça de mes journées. Et le potager, j'aimais faire, je faisais le strict minimum, mais vraiment le strict minimum. Et puis c'est tout. Et puis la mémoire a commencé à revenir progressivement, mais vraiment très très progressivement à partir de mi-octobre, pas trop avant. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, la maladie, de toute façon, c'est bien, c'est très bien, je suis bien capable de reprendre le travail, quelque travail que ce soit, mais la maladie ne va pas durer comme ça indéfiniment. Donc début janvier, j'ai décidé de rechercher un nouvel emploi. Je savais très bien si je trouvais un travail le lendemain, j'étais incapable d'y aller. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile de trouver quelque chose, donc il n'y a peut-être pas de temps à perdre non plus pour commencer à chercher. Donc, je me suis mis, j'y passais une vingtaine d'heures par semaine quand même à chercher. Bon alors, après quelques centaines de candidatures, très peu d'entretiens quand même, et puis bon, beaucoup d'entretiens qui se sont mal passés d'ailleurs. Bref, et puis pour le mois de février, bon, là, il y a eu un gros coup de mou quand même. Gros coup de mou, puis ça s'est pas mal passé, gros problème, et puis c'est pareil, l'accentuation des problèmes de santé, bon, au-delà des problèmes de mémoire, c'était les insomnies, heureusement, j'ai pas connu, moi, mais c'était l'aggravation de l'asthme, c'était l'eczéma, le psoriasis, une belle saloperie, ce truc-là, d'ailleurs. Et puis le dos bloqué, le dos en permanence bloqué, ce qui s'appelle en avoir plein le dos. Et ça a duré des années, avant le début de l'arrêt maladie. Et le chiropraticien que je venais voir à Clermont-Ferrand me disait « Mais de toute façon, cherchez pas, monsieur. Ne cherchez pas, c'est le stress, c'est votre travail. Il y a un problème physiologique, qu'est-ce qu'il est, mais c'est pas ça le problème principal. Le problème, c'est, voilà, vous en avez plein le dos, c'est que ça. Que ça, que ça, que ça. » Puis il avait raison, de toute façon. Et voilà, bon, et puis voilà. Et puis, ben, la rencontre avec l'EPAS, c'est quand même un collègue de travail qui était syndicaliste, qui m'a transmis les coordonnées, mais simplement au mois de février, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, 6 mois après le début de l'arrêt maladie. Parce que mon médecin généraliste, lui, ne connaissait qu'une structure. Il me disait, allez voir le psychiatre. J'ai dit, attendez, psychiatre, il ne me servira à rien, monsieur. Il ne servira à rien. Alors, il va essayer de me prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques. J'ai dit, vos saloperies, vous les gardez pour vous, ça ne me soigne pas, ça me rend encore plus malade, plus léthargique. J'en veux pas de vos saloperies, vous les gardez pour vous. C'est bon. Donc, à la fin, ce qu'il me prescrivait, ça restait chez le pharmacien. C'était très bien comme ça, je pense. Après, bon, ce qui m'a aidé, c'est bon, l'arrêt maladie, le fait de ne plus être obligé de retourner travailler, ne plus être en contact avec les personnages agressifs. Ça, voilà. Le fait de savoir que bon, l'arrêt maladie pouvait être renouvelé de mois en mois comme ça pendant un certain temps, sans avoir l'obligation de retourner travailler. Voilà. Quelque part, ce qui m'a aidé aussi, c'est, alors ça va peut-être aller vous paraître bizarre, mais d'une certaine façon, c'est la solitude. Bon, je suis assez solitaire aussi, mais ça m'a aidé. Le VTT m'a aidé. Puis la reprise de la lecture, la reprise... les bouquins sur le burn-out, j'en ai eu un certain nombre. Hein. La plupart sont quand même bien écrits, ils écrivent très bien les choses. Faut reconnaître.
Ça n'a pas suffi, Denis.
Mais ça n'a pas suffi, non, ça ne suffit pas. Mais voilà. Bon, après la rencontre avec Mme Bétizeau, c'est vrai que c'était déterminant. La première fois où j'ai appelé les passes, j'ai eu Mme Lanoir au téléphone, déjà la qualité de l'écoute. Ça m'a scotché au téléphone. Je dis là, quand même, c'est rare. C'est quand même la première personne qui m'écoute depuis que je suis, depuis le début de la maladie, parce que même ma famille ne me comprenait pas. Puis d'ailleurs, ils n'ont toujours pas compris. Hein, et puis,
bon. Ils sont pas là ce soir?
Non, ils sont pas là, je pense pas. Mais peu importe, ils seraient là. Après, bon, maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre, c'est peut-être pas de leur faute. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ça les regarde. Voilà. Et puis voilà. Mais là, quelque part, la recherche d'un emploi, ça m'a aidé aussi. Ça m'a confronté, me voit la réalité. Ça m'a, voilà. Et puis début janvier, j'ai repris un travail. Alors, je suis passé de quasiment zéro activité, enfin professionnelle, à une activité à 10-11 heures par jour quand même. Parce qu'au départ, il y a beaucoup à apprendre, il faut se mettre. Il faut tout réapprendre. Les systèmes informatiques qui sont différents, puis même si c'est dans la même famille de métiers, un nouvel emploi, c'est une nouvelle activité. Il y a tout à réapprendre. Puis là, je me suis quand même aperçu une chose, c'est que ma mère en avait pris un coup, puis qu'elle n'était pas revenue où elle était. Je n'ai toujours pas retrouvé mes capacités de mémorisation d'avant la crise du burn-out. Je ne sais pas si ça reviendra un jour. Je pense que c'est revenu quand même pas mal, mais c'est pas revenu comme c'était avant. Par contre, le côté positif, toute la mémoire ancienne, parce que je suis quand même obligé de faire appel à des connaissances que j'ai apprises à l'école ou en tout début de carrière, c'est-à-dire que ça fait quand même 25 ans, ça c'est intact. C'est intact. Et quand j'ai besoin d'une information, je sais rapidement où la retrouver. Ça, c'est le côté positif. Par contre, mémoriser au quotidien, il y a des tas de choses qui passent à la trappe. Mais bon, quelque part, à partir où c'est noté quelque part où je peux le retrouver, je m'organise différemment. Après, ce que ça apprend aussi, c'est ne plus tout accepter. Donc, j'ai un patron qui est quand même assez très très exigeant, parce qu'il veut que ça rapporte de l'argent, de toute façon. Il veut bien vous payer, mais... Enfin, il veut bien. Ça l'embête de vous payer tous les mois, de toute façon, il faut bien se le dire. Mais surtout, il faut que vous me rapportiez de l'argent. Donc, forcément, de temps en temps, c'est des comportements un peu agressifs, c'est stop. J'ai un responsable hiérarchique qui est un professionnel de l'organisation. C'est au niveau de la pathologie chez lui, d'ailleurs. Oui, il en est conscient qu'il a une certaine pathologie. Mais il faut lui dire stop. De temps en temps, il faut lui dire stop, 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 ça suffit. Et puis, de temps en temps, je m'en vais plus tôt, ou je sors de l'entreprise, je vais marcher, ou je vais faire une sieste. Alors, ça fait rigoler mes collègues qui disent « Ah ben, il est parvenu, c'est 2h30, il doit être en train de dormir. » Bon, peu importe, ils disent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais, voilà, et puis apprendre, j'ai peut-être mieux appris à m'écouter et à respecter mon corps. Alors, par contre, je ne dis pas que je ne serai pas à nouveau victime d'une burn-out dans quelques années. Ça, c'est toujours le risque. Ça peut revenir. Parce que les conditions de travail aujourd'hui sont telles que, de toute façon, quelle que soit l'entreprise, soit un grand groupe ou une PME, c'est quand même compliqué. D'autant plus que les PME, quelque part, sont contraintes d'adopter les mêmes méthodes de management et les mêmes organisations que les grands groupes. Voilà.
Merci beaucoup, Alain, Stéphanie, Olivier et Sophie. Je crois qu'on peut les applaudir.